OK, on va commencer notre deuxième leçon dans notre série sur la sanctification biblique. Ce soir, on va regarder l'impérative nécessité de comprendre la terrible culpabilité du péché. Des fois, il y a des mots qui sont dans l'original que tu essaies de trouver l'équivalent français, puis « heinousness », « heinousness », « haineux », « heinousness », là, j'ai regardé un petit peu partout, trouver des traductions de tout ça, et ils disent culpabilité, mais je trouve que culpabilité, ça donne jusqu'à un certain point l'idée, mais pas comme heinousness. Heinousness, c'est le côté haineux du péché. Alors, une connaissance correcte et biblique du péché constitue la base d'une compréhension vraie du christianisme. Les notions de conversion, de justification et de sanctification en dépendent. Sinon, ces précieuses vérités risquent de n'être que des mots vides de sens. La première chose que Dieu fait lorsqu'il attire des pécheurs à lui est de provoquer chez ceux-ci une conscientisation interne qu'ils sont des pécheurs coupables, perdus et condamnés à la perdition éternelle. Dieu fait cela par le moyen de la régénération, qu'on appelle aussi la nouvelle naissance. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. « Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. » Les visions faibles, incomplètes et imprécises du péché sont à l'origine de la plupart des erreurs, des hérésies et des fausses doctrines de toutes les époques. Nous devons comprendre plus profondément les notions de péché au singulier, de péché au pluriel et de pécheur, et de saisir les conséquences théologiques de ces choses. Il est à craindre qu'il y ait beaucoup de confusion de nos jours, de relativisme doctrinal, mais de flou théologique de nos jours, chacun croit ce qui lui semble bon. Alors, on va commencer par le premier point. Définissons clairement ce qu'est le péché. Les Saintes Écritures ont beaucoup à enseigner sur le péché, sur sa gravité, sa culpabilité, et aussi sur ses conséquences. La Bible donne une définition du péché, par exemple, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. » Un péché consiste donc à faire, dire, penser ou imaginer quoi que ce soit qui n'est pas en parfaite harmonie avec la loi de Dieu. Est-il nécessaire de rappeler qu'il existe deux types de péchés, ceux de commission et ceux d'omission? Matthieu 25, versets 41-46. On sait que c'est Christ qui parle là. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons point assisté? » Et il leur répondra, « Je vous dis en vérité, qu'en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas fait à moi-même. » Et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. Vous remarquerez dans vos copies, il y a le nombre de fois où il y a vous ne m'avez pas, il y a 5 fois dans les versets. Dans le fond, les péchés d'omission, c'est la volonté de Dieu est révélée et on ne fait pas ce qu'il nous demande. Donc, c'est une omission, c'est un très grave péché. Il y a également les péchés d'ignorance qui sont des péchés. Il y a Lévitique, chapitre 5, les versets 14 à 19, Et on pourrait aussi aller voir Lévitique 4, 1 à 35 et Nombre 15, 25 à 29, où il y a ces notions-là qui sont développées. Alors, le verset 14 de Lévitique 5, « L'Éternel parla encore à Moïse en disant, « Lorsque quelqu'un commettra une prévarication et péchera par erreur en retenant des choses consacrées à l'Éternel, il amènera à l'Éternel en sacrifice pour le délit, un bélier sans défaut, pris du troupeau selon ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire, en sacrifice pour le délit. Il restituera ce en quoi il aura péché à l'égard du sanctuaire en y ajoutant la cinquième de sa valeur, et il le donnera au sacrificateur. Et le sacrificateur fera expiation pour cet homme avec le bélier du sacrifice pour le délit, et il lui sera pardonné. Et lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire, il sera coupable et portera son iniquité. Il amènera donc au sacrificateur, en sacrifice pour le délit, un bélier sans défaut, pris du troupeau, d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui expiation de la faute qu'il a commise par erreur et sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice pour le délit, il est rendu coupable envers l'Éternel. » Et il y a encore, comme on a dit, Lévitique 4 et Nombre 15. Alors, c'est vraiment, le Seigneur dit qu'il ne sait pas, puis il a péché pareil. Puis il est coupable pareil. Alors, le péché, il y a les péchés de commission, les péchés d'omission, les péchés d'ignorance. Il y a même des péchés qu'on commet, on ne s'en rend même pas compte. Mais ça ne fait pas en sorte qu'on n'est pas coupable pour ce péché-là. Mm. Un peu comme nous, quand on se promène sur la route, puis qu'on se fait arrêter pour quoi que ce soit, puis qu'on dit à la police, je ne le savais pas. C'est pas, ça ne passe pas dans la loi humaine, ça passe encore moins dans les lois divines. Et on a aussi la même notion de péché d'ignorance dans Luc 12, les versets 47 et 48. Alors, ça dit, le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt et n'a pas fait cette volonté sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a point connu, donc ça implique qu'il ne connaît pas la volonté, et qui a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Et il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné, et on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. Alors même ici, ça dit que s'il ne fait pas la volonté, même s'il ne sait pas, il est quand même coupable. Alors c'est des péchés qu'on appelle les péchés d'ignorance. La Bible n'appuie pas l'idée erronée qu'un péché n'est pas un péché avant que nous le discernions comme tel et que nous en soyons conscients. Même si on n'en est pas conscient, on peut faire des péchés qu'on n'est pas conscient, les preuves, les versets, puis il y en a d'autres. Alors, j'ai trouvé une phrase intéressante dans la mention de G.C. Ryle. Il parle de l'archevêque James Usher, qui était à l'époque un théologien du milieu anglican, qui était considéré comme une personne très sanctifiée. Alors, le fameux James Usher, c'est celui qui a développé la chronologie biblique pour savoir combien d'années il s'est passé entre, disons, la création. Il a écrit une brique là-dessus. C'est un spécialiste de la chronologie biblique, James Usher. Alors, lui a exercé les fonctions d'archevêque anglican, d'Armagh et de primat d'Irlande entre 1625 et 1656. Donc, autrement dit, il était un grand responsable religieux de l'Irlande à l'époque. Et il a dit, juste avant de mourir, « Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, et spécialement mes péchés d'omission. » Parce qu'il se rendait compte que probablement qu'il y avait beaucoup de choses que le Seigneur demande dans les Écritures qu'on ne fait pas et qui sont des péchés aussi graves que ceux de commission. Maintenant, on va regarder, on a vu la définition du péché, on va regarder maintenant l'origine et la source du péché. Rappelons que la Bible enseigne que la nature pécheresse de l'homme n'est pas le résultat d'une mauvaise éducation, n'est pas le résultat de l'effet d'entraînement de mauvaises influences et de mauvais compagnonnage. Combien de fois on entend ça? Ben c'est parce qu'il se tient avec ses pépins. Mais ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Le péché est une maladie familiale que nous avons hérité de nos premiers parents, Adam et Ève. Les bébés ne sont pas des petits anges ou des petits innocents. Tous les êtres humains héritent d'une nature pécheresse complètement inclinée vers le mal et d'un mauvais cœur dès la naissance. Une observation attentive des jeunes enfants, même nourrissons, démontrera une tendance incessante à la tromperie, au mauvais tempérament, à l'égoïsme et à l'obstination et à la volonté propre, à la convoitise, à l'envie, à la jalousie, à la colère et aux mauvaises passions. L'enfant n'a pas appris ces choses. Qui n'a pas entendu des affirmations folles telles que « Mon fils, dans le fond, a un bon cœur » Qui n'a pas déjà entendu ça? Dans le fond, il a bon cœur. Dans le fond, il est pécheur puis il est pourri. C'est pas la même chose. Alors, Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Jean, chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Éphésiens 2, verset 3, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Romains 8, verset 7, parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Alors, ça dit que l'affection de nous, de la chair avant la régénération, inimitié, ça veut vraiment dire ennemi. On est des ennemis de Dieu avant la régénération. Marc 7, verset 21-23. Car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. On a vu l'origine et la source du péché. On va regarder maintenant l'étendue du péché. On a fait une série sur le péché, donc ça devrait être assez frais dans nos mémoires. Le péché est une maladie qui pénètre dans toutes les parties et les facultés de l'être, le corps, la compréhension, les affections, la volonté et la capacité de raisonner. Même la conscience est affectée et ne peut pas être complètement utilisée comme guide moral, à moins d'être éclairée par le Saint-Esprit, et c'est cela qui se produit normalement à la nouvelle naissance. La maladie peut être cachée sous des couverts de politesse, de courtoisie, de bonne manière et de décorum externe. Cependant, la nature pécheresse ne tardera pas à s'exprimer pleinement à la première occasion. C'est le très mince vernis de la civilisation. Nous devons admettre qu'il reste une bonne part de noblesse dans les facultés et les capacités de l'homme. L'homme démontre ses aptitudes immenses dans les arts, les sciences, la littérature et l'architecture. Mais le fait demeure qu'il est mort spirituellement et qu'il n'a pas de véritable connaissance, pas de véritable amour et pas de véritable crainte de Dieu. Ses meilleures réalisations sont empreintes, mélangées et tissées par sa nature pécheresse. Genèse chapitre 6, verset 5, « Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. » Jérémie, chapitre 17, verset 9, « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra? » Ésaïe, chapitre 1, verset 2 à 6, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri des enfants, et je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a point d'intelligence. Ô nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés en arrière. Où vous frappez encore si vous continuez vos récoltes, vos révoltes? Toute la tête est malade et tout le cœur languissant. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Ce ne sont que blessures, meurtrissures et plaies vives qui n'ont point été pansées, ni bandées, ni adoucies avec l'huile. Le péché est universel et présent sur tous les continents, dans tous les pays, dans toutes les nations et chez tous les individus de la terre sans exception. Cette nature pécheresse demeure même chez le chrétien régénéré. Ils devront la subir jusqu'à la mort. Nous devons cependant savoir que cette nature pécheresse sera vaincue, contrôlée, mortifiée et crucifiée par le principe et la puissance de la grâce. La vie du croyant sera une vie de victoire et non une vie d'échec constant. Romains chapitre 6, verset 14. « Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. » 1 Corinthiens 15, 57. « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le combat constant que le croyant devra mener contre la chair est une preuve éloquente de son extraordinaire puissance et de sa vitalité. Encore une fois, je suis arrivé avec un autre terme en anglais que j'avais de la difficulté à traduire et j'ai trouvé, à fin de compte, il existait un mot français et c'est le mot « leader », le leader du péché. Ça, c'est le point D. On va regarder. J'ai trouvé que le mot était correct, mais il faut vraiment expliquer un petit peu selon le dictionnaire. Alors, le dictionnaire Robert définit le mot « leader » de la manière suivante. Caractère de ce qui est « hideux ». Laideur extrême. C'est une laideur affreuse, repoussante, horrible, ignoble et répugnante. J.C. Ryle est pleinement persuadé que l'homme, même régénéré, a une conception inadéquate de leader du péché et que sans l'aide et la lumière du Seigneur, il ne peut saisir l'excessive laideur du péché aux yeux de Dieu. De la même manière qu'un aveugle ne peut pas pleinement apprécier une œuvre d'art ou qu'un sourd comprendre une magnifique symphonie. Nous n'avons pas de sonde ni de mesure assez longue pour mesurer toute son horreur. Job, chapitre 15, versets 15 et 16. « Voici, Dieu ne se fie pas à ses saints et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Combien plus est abominable et corrompu l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. » Habacuc 1, verset 13. « Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux regarder l'iniquité. Pourquoi regarderas-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Et il leur répondra, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, hein? J'ai oublié de marquer dans quel livre que j'ai trouvé ça, je pense que c'est Matthieu 25, en tout cas. Et il leur répondra, « Je vous dis en vérité, en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne les avez pas fait à moi-même, et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. » Ces mots de Jésus lui-même sont terribles, surtout si nous considérons qu'ils sortent de la bouche d'un Dieu miséricordieux. Implorons le Seigneur de nous donner de voir leader du péché. Et c'est donc le cinquième point concernant le péché, c'est la séduction et le côté trompeur du péché. Le péché a un côté tellement séducteur et trompeur que peu d'entre nous le saisissent pleinement. Nous avons tous la tendance à exténuer sa gravité, à l'excuser misérablement et à minimiser sa culpabilité. Nous le constatons dans le fait que même les croyants tendent à maintenir des pratiques questionnables, à trop aimer l'argent, à entretenir des relations coupables avec le monde, à jouer avec la tentation et à sanctionner des standards peu élevés de religion familiale. Nous sommes trop aptes à oublier que la tentation se présente rarement à nous sous ses véritables couleurs, en disant par exemple « Je suis ton ennemi mortel, je veux te détruire et t'envoyer en enfer pour l'éternité. » Oh non, elle se présente comme Judas, avec un baiser, ou comme Joab, avec une main tendue et des mots flatteurs. Hébreux, chapitre 3, verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Même dans les meilleures choses que nous faisons, nous trouvons des traces du péché. Nous pouvons être distraits et avoir de mauvaises pensées, même lorsque nous prions et nous lui manquons ainsi de la révérence la plus élémentaire. Combien nous avons des manquements pour exprimer au Seigneur ses innombrables bontés, bénédictions et miséricorde. Nous pourrions multiplier les exemples pour démontrer cette vérité que même nos actions les plus hautes et les plus nobles sont teintées par l'odeur du péché. Il semble que plus nous grandissons dans le Seigneur, plus nous constatons avec tristesse notre grande misère, plus nous nous approchons de Dieu et du ciel, plus nous voyons l'ampleur de notre nature pécheresse et plus nous devons nous vêtir de la plus profonde humilité. L'étude des biographies des plus grands saints et saintes de l'histoire nous démontrera la vérité absolue de cette affirmation. Cependant, nous pouvons nous consoler en réalisant que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est que à partir du point F, là, il utilisait la confession de foi et moi, j'ai tout simplement pris la même idée, mais pris notre confession de foi pour parler du péché, mais dans le fond, ça donne à peu près sensiblement la même chose. Alors, si on utilise tout ce qu'on vient de voir là, on l'a dans notre confession de foi avec plein de versets. Alors, on va tout simplement le relire ensemble. Le chapitre 6 de la confession de foi baptiste de Londres de 1689 donne une excellente présentation de la doctrine du péché. Alors, le chapitre 6 a comme titre « Le chute de l'homme, le péché et son châtiment ». Alors, le premier paragraphe, « Bien que Dieu ait créé l'homme droit et parfait », et lui a donné une loi juste qui était en vue de la vie s'il l'avait observée et qu'il l'ait menacée de mort s'il la transgressait, l'homme n'a pas gardé longtemps cet honneur. Utilisant subtilement le serpent, Satan séduisit Ève et par elle, il séduisit Adam qui, sans contrainte sur lui, transgressa volontairement la loi de leur création et le commandement qui leur avait été donné en mangeant du fruit défendu. Il plut à Dieu de permettre cette chute dans son conseil sage et saint, puisqu'il avait déterminé de l'utiliser pour manifester sa gloire. Alors, vous voyez dans le texte, c'est toujours les petits chiffres, là, vous pouvez aller en bas et voir les versets qu'ils utilisent pour justifier la vérité de ce qu'ils affirment. Dans le deuxième paragraphe, ça dit « Par ce péché, nos premiers parents ont perdu leur justice originelle et leur communion avec Dieu, et nous en eux. De ce fait, la mort est venue sur tous. Tous sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toutes les facultés et les parties de leur âme et de leur corps. » Troisième paragraphe, « Puisqu'ils étaient la souche du genre humain et par le vouloir de Dieu, ils représentaient toute l'humanité, la culpabilité du péché a donc été imputée et la nature corrompue a été transmise par eux à toute leur postérité par le processus normal de la génération. Leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché et sont par nature des enfants de colère des serviteurs du péché, assujettis à la mort et à toutes sortes de misères spirituelles, temporelles et éternelles, à moins que le Seigneur ne les libère. Quatrième paragraphe. De cette corruption originelle par laquelle nous sommes complètement infectés, incapables et ennemis de tout bien, et entièrement portés à toutes sortes de mal, proviennent toutes les transgressions actuelles. Et, cinquième paragraphe, la corruption de la nature humaine, c'est-à-dire la corruption de la nature demeure pendant cette vie sur terre en ceux qui sont régénérés. Bien que le croyant en ait reçu le pardon en Christ et qu'elle soit mortifiée, cette corruption ainsi que les actions qui en procèdent est vraiment et au sens propre péché. Alors, j'ai mis quelques applications. La première, constatons tous les apports et les usages pratiques d'une compréhension et d'une vision biblique de la doctrine du péché. Le premier apport, c'est un antidote puissant contre une théologie floue et nébuleuse qui est commune de nos jours. Un peu de Christ, un peu de grâce, un peu de foi. Une théologie aussi vague n'exerce pas de véritable influence sur la marche chrétienne quotidienne, ni ne donne la paix profonde de l'âme. Ceux qui se soumettent à une telle théologie ne réalisent que très souvent trop tard qu'il n'y avait rien de solide et de réel dans leur religion. Les chrétiens ne mettront jamais leur face décidément en direction du ciel et ne vivront comme des pèlerins que lorsqu'ils se seront vraiment sentis en danger d'aller en enfer à cause de leur péché. Deuxième apport, c'est un antidote efficace contre la théologie libérale et moderniste. Nous voyons de nos jours une tendance à rejeter les dogmes et les confessions de foi. Certains vont même jusqu'à se persuader que tous iront au ciel. L'expiation et la propitiation par Christ, la personnalité du diable et la réalité de l'enfer éternel sont bien mal comprises par beaucoup de chrétiens, de guillemets, qui sont en réalité que des professants et non de véritables croyants. Quatrième apport, c'est une antidote scripturaire contre le formalisme qui trouve sa satisfaction dans l'usage des fleurs, des chandelles, des vitraux, de la musique, de l'encens, des habits somptueux et d'une multitude d'autres activités qui sont des inventions d'hommes. Quatrième apport, c'est un antidote destructeur des fausses doctrines du perfectionnisme, ce qu'on appelle en anglais « sinless perfection ». On en avait parlé un peu la semaine dernière. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10. « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Cinquième apport, c'est un antidote décapant les fausses doctrines et les visions basses, insuffisantes, limitées, erronées et dangereuses concernant la véritable nature de la sanctification et de son absolue nécessité. Hébreux, chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Béni soit Dieu, son don ineffable, Jésus-Christ. »
Amen.